secrétaire d'État au sport et la préférée des Français et la mal-aimée du gouvernement. Va-t-elle pouvoir se présenter au régional ? Nous lui poserons la question. Rendez-vous avec Ramayad dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter.
La différence.
Il est 15h04 précisément sur France Inter. Bon après-midi à tous, c'est l'heure de Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour, vous trouvez que c'est pareil d'être enceinte, d'attendre un bébé, ce qui est quand même en principe plutôt une bonne chose depuis que la contraception existe du moins, que c'est pareil aussi d'être malade, d'être, bon je sais pas moi, d'avoir une grippe d'avoir un petit coup de blues, et puis d'avoir un accident du travail, c'est la même chose pour vous, pas pour moi en tout cas. Eh bien, la loi est passée, hein. Ils vont être taxés, les accidentés du travail. Ils vont être taxés au nom de l'égalité. Et la loi est passée par 57 pour, 25 contre. Ça veut dire que, dans ce pays, les députés de l'opposition ne représentent plus leurs électeurs. 25, ils étaient 25. Bon, peut-être que ça n'aurait rien changé, mais ça me met pas mal en colère, tout ça. Vous connaissez beaucoup d'accidentés du travail chez les banquiers, chez les financiers, et même chez les patrons ? Moi, pas. Je suis pas du tout concernée personnellement. Je suis retraitée depuis 10 ans, mais je suis en colère, et je vous embrasse quand même. À lundi, salut.
Ici, c'est le repère de La Rochelle, qui vous informe que notre prochaine rencontre aura lieu vendredi prochain 20 novembre à la petite marche comme d'habitude, c'est-à-dire au 4 de la rue des Trois Fuseaux près des Halles. Et le thème du débat, cette fois, est un sujet d'actualité. La vaccination, faut-il l'accepter sans réserve ?
Bonjour, là-bas si j'y suis, c'est Saïd dans le Lot. Je voulais parler d'identité nationale. À mon sens, pour le politique, l'identité nationale, c'est ce qui est défini par la loi que le politique a fait voter. Un homme politique ne peut pas se poser la question de savoir ce qu'est l'identité nationale, puisqu'elle répond à des critères qu'il a fait voter par une loi. Tout possesseur de la carte nationale d'identité est d'identité française. Pour le philosophe, la question de l'identité française ne se pose pas. Le philosophe répond à des termes, à des sujets génériques et non pas à des particularités. La question pour le philosophe, c'est qu'est-ce que l'identité ? Mais pas plus française que serbo-croate ou visigothe à la limite. Donc si M. Besson se pose la question et pose la question de savoir ce qu'est l'identité nationale, c'est que lui-même ne respecte pas la loi, ne l'applique pas, et en plus, le fait que lui, un politique, se pose la question, suppose que lui pense qu'il y a des sous-français, des français et des sur-français. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette identité nationale. Moi, fils de Kabyle et d'une mère bourguignonne, l'identité française pour moi ne se pose pas. Le problème qui se pose à moi, comme à tous les humains, c'est de savoir quelle est mon identité. Salut là-bas et à bientôt.
Un fait divers bien dégoûtant. Une agence d'assurance qui propose de filer des billets de banque gratos. Ça ramène plein de gens dans Paris, des crevards. Et à la dernière minute, ils annulent l'opération, du coup, émeute. Voilà. C'est super.
Ne jetez pas vos vieux. Nous, on vous les achète. On dit que c'est un proverbe rome, ce que je vous dis là. Ne jetez pas vos vieux, nous, on vous les achète. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est beau d'abord, et ensuite, ça colle tout à fait avec notre sujet du jour. Les vieux. On tue les vieux. J'ai un bouquin sous les yeux, édité chez Fayard, signé d'une série de spécialistes. On tue les vieux. Extraordinaire comme titre, non ? Et dans ce bouquin, on nous explique un peu comment ça se passe. Comment on vieillit dans ce pays, comment on meurt, comment on se fait maltraiter, comment on se fait oublier. Le Parisien fait un titre entier sur la discrimination des vieux. Ils m'ont dit non quand ils ont vu ma date de naissance. Comment Noël, 77 ans, a fait condamner la Matmut. Il se passe quelque chose sur le front des vieux. D'abord, le vieux, c'est une camelote formidable. Ça rapporte beaucoup, ça peut rapporter beaucoup. Et ça rapporte beaucoup. Et on en a de plus en plus de ça, des vieux. Et ça, ça fait des sous. Hein. Si vous voulez investir dans quelque chose, investissez dans le vieux. Vous avez compris, on va évoquer cette formidable ségrégation, ce véritable apartheid qui est cette élimination des anciens, des vieux dans notre pays, pas seulement dans notre pays. Alors vous voyez comment j'avance, hein, c'est très culpabilisant ce que je dis. Et oui, la culpabilité joue beaucoup dans cette affaire dans laquelle nous allons... j'allais dire nous promener. Non, on va pas se promener. C'est un sujet qu'on passe sous le tapis d'habitude et qui est bien gênant, bien embarrassant, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la fin de la vie, mais c'est encore la vie. Jusqu'au bout, la vie. C'est jusqu'à 16h dans la basse, j'y suis, un reportage de Charlotte Perry. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, notre prochain rendez-vous c'est mercredi, ce mercredi 18, à partir de 20h, toujours à l'Estaminet à Verdun. Et cette fois-ci, nous discuterons des éco-tartuffes, voire... verrons un petit peu ces gens qui nous peignent tout en vert, voir où ça va. A bientôt donc mercredi, à partir de 20h à l'Estam, à Verdun.
Bonjour à tous les auditeurs, j'étais sur le site internet du débat sur l'identité nationale pour voir ce qui s'y disait et apporter ma contribution de citoyen. Et j'ai eu la surprise de ne pas pouvoir publier mon avis, qui semble-t-il ne répondait pas aux critères de la modération, critères dont on nous précise d'ailleurs que les modérations ne seront ni motivées, ni notifiées. Alors voilà, comme mon message n'a pas pu être diffusé sur le site du gouvernement, je me suis dit que j'allais le laisser sur le répondeur de la page si j'y suis, d'autant plus que je ne reste pas en France longtemps, donc c'est le bon moment pour parler de mon identité française. Donc je te lis ce que je souhaitais déposer sur leur site. Être français, c'est hériter d'une culture humaniste qui sut faire progresser les individus vers le respect de son prochain, l'égalité, la fraternité, sans négliger la liberté. C'est du passé. Aujourd'hui, être français, c'est avoir honte d'expliquer ce qu'est devenu la France. Expliquer pourquoi nous, on renvoie des humains vers un pays où leur mort est probable. Expliquer pourquoi nous, on refuse d'aider notre prochain parce qu'il n'a pas les papiers, le sang, l'hérédité, le portefeuille, qu'on peut le laisser mourir de faim, de froid. Expliquer pourquoi nous, on accueille des chefs d'État qui nous rapportent, quelle que soit leur relation aux droits de l'homme. Expliquer que lorsqu'on vote, on ne décide pas, que notre État revotera à notre place s'il n'est pas d'accord. Expliquer qu'ici, les contrôles policiers se font à 80% au faciès. Expliquer que l'angoisse domine ici les relations au travail comme les relations de voisinage et que cet état de fait est consciemment entretenu. Expliquer le népotisme, la veulerie, la laïcité choisie, l'asservissement des médias, la parole unique d'un chef qui parle à son peuple avec mépris. Expliquer comment on peut avoir pour slogan « tu l'aimes ou tu la quittes » et exploiter les pays qui n'ont jamais voulu de français chez eux. Être français, c'est au sein d'un pays formidable avec des paysages, des habitants, une culture formidable. Mais vouloir qu'il redevienne lui-même, car à force, on a trop honte d'expliquer. Voilà, c'était Olivier de Lyon, un peu surpris que son message ne passe pas, parce que la modération est trop stricte. Bonne journée à tous.
Bonjour à tous les AMG de la Côte Basque Sud-Lande. Vous êtes attendus nombreux pour débattre de ce qui vous préoccupe, mercredi 18 à 20h30, au Trinquet Saint-André, à Bayonne. Venez nombreux, à bientôt.
Je lance un appel pour le soutien aux 58 faucheurs d'OGM poursuivis par Monsanto. Il serait utile de venir les soutenir pour leur procès en appel les 18, 19 et 20 novembre. C'est un accompagnement à la cour d'appel de 8h30 et 13h30. Ce serait bien de les accompagner. D'avance, merci pour eux. Au revoir.
À destination de Reignac. Il nous desservira Jouet-les-Tours, La Douzillière, Montbazon, Vennier, Èvre, Cormeries.
Moi, je veux dire, je veux pas dire un truc, mais j'allais dire, moi, j'appellerais ça un mouroir. C'est un endroit où on dépose des gens parce que on attend que ça se termine.
Vous avez le pain tout à l'heure. Il y
Et malheureusement, c'est que... on peut rien faire. Non, enlevez-moi là, ça. Elle pue.
On se réveille, c'est le petit déjeuner. On ouvre les yeux.
C'est comme ça, il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, il faut que... Et à l'heure actuelle, les personnes âgées, c'est du bétail. Et encore, je veux dire, je crois que maintenant, un animal, s'il souffre, il est... on le pique. Hein. On ne laisse pas comme ça.
Nous avons décidé de ne plus lire les livres, mais les rides de nos ancêtres. C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, Charlotte Perry. Arriving from New
York. Coucou ma petite mère.
Bonjour.
Bon, ma petite mère, t'es dans le noir. T'es dans le noir. Qui c'est qui t'a fermé comme ça?
Non, mais je me voyais toute seule alors.
Ils ont fermé les volets?
Ah, je vais les ouvrir. Hein. Ah,
c'est même pas le courage de débarrasser ma table.
Mais maman, c'est pas à toi de le faire.
Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Voilà. Oh, je n'aurais pas resté comme ça autrefois. Ah non. Non, ah non.
Ça, c'est sûr.
Quelle affaire, Mathieu. Tu es foutu.
Mais non, t'es pas foutu, maman.
Si, je veux.
Mais non.
Je sais pas de vous. Mon Dieu. Quelle vie, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Quelle vie. Mais non, c'est pas possible. Ah, la misère. À poil. Ouh, je tiens pas de
vous. Enfin, elle a mangé quand même.
Moi que m'étant traînée, moi que m'étant... Je ne peux plus marcher, je marche encore un peu. Mais j'ai été 3 mois là sans pouvoir bouger. Je ne pouvais pas bouger du tout mes jambes. J'ai souffert. Oh là là. Quelle affaire. Je ne voudrais pas vieillir.
Qu'elle soit bien mal à la tête.
Oh là là.
Entrez. Ah, vous êtes gentille.
Je suis venue voir. Son dentier du bas, il est resté.
Elle l'a retrouvé. Tu l'as plus, là,
du
maman
bas, du bas.
Ton dentier, fais voir.
Non,
fais-moi voir ta bouche.
Je ne l'ai pas.
Ben, tu l'as mis où, maman?
Oui, demain.
Figurez-vous, il a été perdu 2 mois.
Je ne sais même pas où il est.
Attends, bouge pas tes pieds, que je te fasse pas mal.
Ah ben, si tu le vois pas en haut...
Ben, maman, je le vois pas. À moins que tu l'aies mis dans un petit mouchoir.
Il n'est pas par là.
Ben, où veux-tu qu'il soit?
Je le mets pas. C'est... Ben, regarde en bas. Ben,
j'espère que tu l'as pas mis à la poubelle, maman. Ben, j'ai regardé en bas.
Regardons en bas.
Ah, ben, en bas.
Je sais pas ce que c'est, le bas, non?
Faites pas attention, hein. Par moment, ça... Ben, en bas, t'en as un bazar là-dedans.
Non, c'est... il n'est pas en bas non plus.
Du pain, du...
Ben, je sais pas, je l'ai mis. Ben, regardons dans la salle.
Ça coûte cher, un dentier, hein?
Je sais pas que je
dans la salle d'eau, j'ai rangé ses
flacons. Comme je le mets jamais.
Bon, il faut les toilettes, hein, c'est pas net. Hein.
Oui.
Bon. Ah oui, il faudrait que ça soit récuré, mais non.
C'est pas de la première génération.
Comment?
C'est pas de la première génération.
Ah non, 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 c'est un établissement. Ben, moi, je suis bien coiffée aussi. C'est un vieil établissement. Hein.
Ah oui, oui.
Excusez-moi.
Ben, le dentier, il est disparu encore.
Ah oui, il n'y a pas de douche dans la...
Ah, ah non, non, ils vont les doucher au milieu.
Dans le couloir.
Ton placard, là, il y a plein de miettes, il y a plein de...
Oh, mais c'est...
Mais maman, c'est pas à toi de le faire, je le ferai, moi. T'inquiète pas.
Ça m'est arrivé de laver avec du sopalin. T'allais demander des chiffons aux filles.
Oh, bah, je suis...
Bah, je le vois bien, là. Puis l'oxygène, ça doit l'endormir un peu.
Oh, quand tu es toute seule... Oh. Ah oui, je m'ennuie. C'est imaginable. J'ai toujours quelqu'un, remarque, tout le temps, tout le temps. Mes enfants, mes fils, tout ça. Mais sitôt que je suis un peu toute seule, oh, je suis perdue. Je regarde la mort. Et puis le cafard me prend. Oh là là. C'est quelque chose, ça. Moi, qu'elle m'étant la vie, puis maintenant. Et puis j'ai perdu tout mon monde. J'ai perdu un fils, presque deux.
Non, ben non, non, non. T'as perdu papa.
J'ai
et
perdu
puis
Jackie. Eh oui. J'ai plus personne.
Bah t'as nous, maman. Tu as nous. Nous on est là.
Ah bah heureusement.
Bah oui. Et puis on te laisse pas.
Vioc, schnock, déchets, renures, débris. On peut y aller avec les vieux. Les Arabes, il faut faire attention. Les Noirs, il faut faire attention. Les Juifs, il faut faire attention. Les PD, il faut faire attention. Mais les vieux, on peut y aller. On peut se lâcher. On peut se lâcher. Les débris, les rognures, les inutiles, on peut y aller. Ça compte pas. 15 000, l'été 2003, lors de la canicule, on a oublié. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers dans ces maisons de retraite. Ils sont 1,1 million de personnes âgées de 85 ans et plus dans notre hexagone. Et dans 10 ans, ils seront près du double. Ils seront, elles seront, c'est-à-dire nous. Mais non, le vieux, c'est l'autre. C'est comme... Le nègre, l'arabe, le juif et le PD, c'est l'autre, c'est pas nous, c'est pas soi, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose de caché, de planqué, d'ailleurs, de... qu'on veut pas voir. Et puis un jour, quand même, on est rattrapé par ça, une grand-mère, une mère. Et puis un jour, c'est soi. Il y a un énorme malaise avec les vieux dans ce pays, dans des pays comparables. Dans des cultures comparables. Le malaise, pas pour tout le monde. Le vieux est très rentable. La ménagère de moins de 50 ans n'intéresse pas, par exemple, quelqu'un comme Jean-Claude Marian, le patron d'Orpea. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la pensionnaire de plus de 80 ans. Ça crache mieux, précise son entourage, dans Capital, le journal Capital de janvier 2006, auquel il se confiait. Selon l'INSEE, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait bondir de plus de 40% d'ici à 2020 et avoir quasiment doublé en 2040. Quelle industrie peut se prévaloir d'une aussi réjouissante prévision de marché ? Voilà ce qui nous intéressait avec Charlotte, c'est... les vieux, aujourd'hui, dans ce pays, de plus en plus nombreux, nous vivons de plus en plus longtemps, mais dans quelles conditions ? Le ministre des Affaires étrangères de Bolivie, David Choquehuanca, disait « Nous avons décidé de ne plus lire les livres, mais les rides de nos ancêtres. » La Bolivie, c'est très loin, jusqu'à 16h, sur Inter, avec Charlotte Perry, les vieux.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Ah. dans les fossés, à moi qui n'apporte du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans voie ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
À part ça, rien de nouveau?
Non, que du vieux en maison de retraite, hein.
Ouais, ça c'est vrai. Oui, oui, ça peut être.
Et vous pouvez pas vous préparer votre petit déjeuner?
Non.
Et le petit chocolat chaud? On ouvre les yeux.
Et voilà le travail quotidien, en fait. C'est tout le temps courir après quelque chose. Donc, la plupart du temps, on oublie les résidents parce que on court, on fait vite.
Moi, je me suis vue prescrire à une dame en fin de vie d'un cancer du côlon. On m'a dit, sur cahier, mettez-lui un suppôt de doliprane 4 fois dans la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez. Un suppositoire d'un antalgique simple pour quelqu'un en fin de vie avec métastasé. Vous imaginez. Et c'est même pas par la bouche qu'on me demande de le faire, c'est de le mettre par voie.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Ça va?
Ça va monsieur, merci.
Ça va, aussi.
Vous également?
Je veux faire un petit tour.
Vous avez raison, il faut.
Ça m'a changé.
Oui, vous avez bien mangé?
Il y a des familles qui ont la possibilité, qui viennent les visiter de temps en temps, mais il y en a qui les déposent et qui ne reviennent plus.
Quand on a créé des maternités, on a des usines à bébés, on a des usines à vieux. Voilà.
On est avec eux, hein. On connaît quand même plus ou moins leur situation familiale. Puis ils nous le disent, hein. J'ai des enfants, mais non, mais je les vois plus. Alors ils passent pendant les vacances, ils passent par là, et puis ils arrivent, ils sont tout contents, on leur fait tout belle, tout beau, et puis c'est parti pour l'année prochaine. Et je peux pas dire que c'est la faute des enfants ou de la famille des frères et sœurs. Mais c'est les structures qu'il faut changer.
Régulièrement, on a reportages poignants, terribles, sur la maltraitance dans une de ces maisons de retraite. Et aussitôt, un ministre apparaît qui promet qu'on va lutter contre cette maltraitance. Hubert Falco, par exemple, en novembre 2002, dénonçait la maltraitance que subissent chaque année 800 000 personnes âgées en France. Il déclarait que 200 000 lits étaient indignes d'accueillir des personnes dépendantes, soit un tiers des lits en maison de retraite. À qui profite ce crime ? Je l'évoquais, la vieillesse, le vieux, ça rapporte. Le vieux fait de l'argent, le vieux a de l'argent. Et s'il n'en a pas, ses descendants en ont, il a des biens, il a des patrimoines. Il a un patrimoine éventuellement et il est vulnérable, donc c'est très facile de lui faire les poches. C'est aussi cynique et aussi sinistre que ça, et nous le savons. 68% des Français estiment qu'à l'heure actuelle, la prise en charge des personnes âgées par les pouvoirs publics n'est pas satisfaisante. 86% des Français estiment que les places disponibles en maison de retraite sont insuffisantes. 69% des Français décident d'être dans l'incapacité d'assumer le coût d'hébergement en maison de retraite. Et 32% des Français soupçonnent des situations de maltraitance en maison de retraite. C'est un très grand malaise et très profond malaise que nous évoquons à partir d'aujourd'hui dans cette maison de retraite qu'on va même pas citer, parce que ceux qui nous ont permis d'y accéder redoutent pour leur emploi. C'est extraordinaire de penser que pour simplement aller voir comment vivent nos anciens, il faut en passer par des ruses de Sioux. Mais c'est ainsi. Et c'est ainsi qu'avec Anne-Marie, nous entrons dans cette maison, je ne dis pas où donc, où elle va rencontrer sa mère. Mais d'abord, rencontre avec Anne-Marie.
Moi, j'habite Châtellerault, je viens toutes les semaines. Quelquefois, deux fois par semaine, voir ma maman. Surtout quand elle est fatiguée comme ça. Elle n'a jamais voulu venir en maison de retraite, maman. On a été obligés, elle ne voulait pas venir. On a eu énormément de mal à... Vous savez, deux ou trois fois, on a refusé parce qu'elle ne voulait pas venir. Parce que maman a toute sa tête. Elle n'est pas malade d'Alzheimer. Hein. C'est une personne qui cogite beaucoup. Hein. Mais étant donné qu'elle est très malade, elle est diabétique... Et elle tombait, quand l'infirmière arrivait le matin pour l'insuline, ben elle l'a trouvée où, sous la table ou... Alors, on n'avait pas de solution, hein. Il fallait la mettre quelque part. D'abord, ils ne voulaient plus la garder là-bas. Hein.
C'était dans un foyer logement ?
Foyer logement, oui. Elle y a été 10 ans. Parce que quand mon papa est décédé, elle habitait tout, mes parents habitaient tout. Quand mon papa est décédé, on l'a fait enterrer ici à Jouy-les-Tours. Et maman a pris un appartement ici tout près, c'était au Morier. Et elle a fait deux infarctus. Donc le médecin a dit stop, il faut... Et là, elle voulait pas y venir. Hein. Là, elle voulait pas. La maison de retraite, ça l'a bousculée, quoi. Elle est devenue plus ou moins... Comment on peut dire, agressive quand même. Agressive, oui. Même avec nous. Hein. Elle a changé parce qu'elle aimait bien être entourée. Mais là, depuis qu'elle est là, elle ne veut pas descendre en bas. Elle ne veut plus regarder sa télé. Alors qu'elle adorait, elle regardait Les Feux de l'Amour, Julien Lepers, comme toutes les personnes âgées. Et depuis qu'elle est là, on n'a jamais allumé la télé. Je crois qu'elle n'a plus envie d'aucun contact. Ah oui, depuis qu'elle est là, elle s'est renfermée sur elle-même. C'est fini, terminé. J'ai l'impression que dans sa tête, elle s'est dit, ben, ils m'ont mis là. Je pense qu'elle aurait aimé venir chez l'un de nous. Elle espérait ça. Et je pense que quelque part, elle nous en veut quand même. Oui, oui, oui. Maman, actuellement, est en chambre seule, mais elle a été 2 ans en chambre double. Là, c'est pas marrant, hein. Entre la mamie qui lave le slip toute la journée, qui perd la boule, et puis entre l'autre qui crie, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, entre deux, ben, vous avez les gens qui crient dans la journée. Ben, y a des gens qui sur le côté, qui renversent les verres, qui appellent. Hein, vous voyez, c'est... Moi, je veux dire, moralement, le psychisme, il en prend un coup quand même. Hein. Au début, elle nous disait « Mais je suis là pour combien de temps ?» On disait « Maman, tu vas te reposer. T'es en maison de repos, tu vas te reposer. » Mais là, je ne sais pas ce que maman elle pense vraiment en ce moment. J'en sais rien, je ne sais pas. J'ai l'impression que quand on rentre, et je suis à peu près sûre que c'est ce que maman a eu comme idée, on a l'impression que c'est là, c'est fini. Là, c'est le mouroir. La vie, elle s'arrête là. Elle va s'arrêter parce que vous êtes en maison de retraite et vous n'en sortirez pas. Moi, je pense comme ça. Si un jour je me retrouve en maison de retraite, j'espère ne jamais y venir. Jamais.
Ces paroles-là, vous les avez entendues, vous les avez dites et répétées. Vous les direz forcément peut espérer que les choses changent, que la réflexion avance, qu'on ait un autre regard sur le troisième âge, sur le quatrième âge, mais on en est très très loin. Le point de vue de Mustapha Ramdam, qui est responsable syndical Sud Santé au CHU de Tours.
Les maisons de retraite aujourd'hui, d'abord, c'est parler de maisons de retraite, c'est un non-sens, parce que si c'est ça la retraite, c'est ça être en retraite, c'est ça être en retrait, oui, c'est un, voilà, on est en retrait de tout, ça c'est une évidence. Mais quand on parle de ces lieux-là, on a plutôt des structures, des institutions qui sont à la fois des mémoires, des lieux de fin de vie, où se concentre toute la douleur, toute la souffrance, toutes les, y compris l'indifférence, un peu des pouvoirs publics, un peu de la société en même temps. C'est-à-dire, c'est un lieu caché où se concentrent toutes les souffrances des gens qui y travaillent et des gens qui sont accueillis ou soignés. Mais quand on parle de ces lieux-là, si vous voulez, c'est 2003. 2003 est une année où a été révélé ce qu'on appelle le scandale des maisons de retraite, ce qu'on avait la canicule, etc., qui a révélé ce qui pouvait se passer dans ces maisons de retraite. Depuis 2003, après les larmes de crocodile des politiques, rien n'a changé. Les choses sont en plus aggravées par rapport à 2003. Puisqu'on a l'opposé de ce qui peut être humain. Ben pour le privé, par exemple, même pour le public, malheureusement, eh bien, au bout du compte, c'est quand même les bénéfices. C'est-à-dire la rentabilité des lits qu'on gère là-dedans. Mais les gens qui sont là-dedans ne comptent très peu, comptent très très peu, et les gens qui travaillent aussi. Voilà, on a fait un marché de vieux. Si vous voulez, ces maisons-là sont, en gros, la face cachée de notre activité économique. Voilà, c'est le bout de chaîne. C'est la fin de la chaîne.
Quand j'arrive, que je vois la chambre sale, ben moi, ça me déboussole. Dites, vous savez, quand elles font le ménage le mardi et que vous arrivez le vendredi ou le samedi, si elles n'ont pas eu le temps de le faire, les salles d'eau, c'est pareil. Ah ben, en bas, c'est super propre. En bas, il n'y a pas de problème. C'est là où les gens rentrent, c'est là... J'ai demandé l'autre jour si la direction avait une seule fois monté dans les étages. Non. Non. Il n'est jamais venu voir dans une chambre comment c'était. Depuis qu'il est là. Non. Et ça, je ne suis pas la seule. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'oseront pas le dire, mais qui le pensent dans les couloirs. Mais qui ne viendront pas en parler, voyez. C'est ça qui est moche, parce qu'ils ont peur des représailles. Je ne vois pas quel genre de représailles il peut y avoir. On va pas aller faire des misères à des petits vieux quand même, hein. Parce que là, c'est le personnel qu'on défend là. Moi, je défends le personnel là. Donc, je vois pas pourquoi on ferait des représailles.
Quand on parle de maltraitance, c'est difficile de vous dire que la maltraitance institutionnelle, les soignants la portent sur eux. Parce qu'on lui fait faire des choses qui relèvent aussi de la maltraitance. On va vous donner un protocole pour faire les choses. On va vous donner un rythme pour faire les choses. On va vous donner un temps pour dire, bon, vous faites ça dans tel et tel temps. Mais si vous venez pour soigner, pour avoir des temps pour soigner, pour comprendre l'autre, ben, c'est pas ça que vous faites. Vous faites autre chose. On vous fait faire autre chose. Les vieux, c'est un gisement. Il y a des gens qui travaillent, sont exploités dans ces gisements-là. Mais là-dedans, ne parlez pas d'humanité, ne parlez pas de maison de retraite surtout, parlez d'institutions à la limite, c'est poli, parlez des EHPAD, ça porte un nom, voilà, c'est des lettres, sympa, mais ne parlez pas de maison de retraite, ne parlez pas de lieu de vie, ça porte un nom. Alors ils ont trouvé les EHPAD, ça c'est pas mal les EHPAD, parce que c'est au moins ça, Kézako, ah, c'est des EHPAD, bon d'accord. Alors quand on a des EHPAD, on n'a peut-être pas tout dit, mais une fois qu'on y est, on commence à voir un peu ce que c'est. Voilà. En tout cas, c'est pas lieu de vie, c'est clair. C'est pas lieu de vie, c'est clair.
Vous payez combien pour...
Exactement, je ne sais pas, parce que c'est la maison de retraite qui se paye. Je pense que, bon, tout le temps que moi j'ai réglé, ça tournait autour de 1600-1700 euros. Ça a dû augmenter maintenant, hein. 1800, peut-être un peu plus. Tout ça, ça dépend des J, hein. C'est les gens qui sont plus ou moins dépendants. Alors, maman avait de l'argent de côté. Tant qu'elle a eu de l'argent, elle a payé. Maintenant, elle a une part qui est prise par le conseil général. Et nous, les enfants, on a une petite quote-part à payer aussi. C'est l'avantage d'une maison de retraite publique. Là, le conseil général a pris... Parce qu'attendez, les retraites, maman, elle ne touche pas beaucoup hein, de retraite. Hein. Elle n'a pas grand-chose. Hein.
Ça ne suffirait pas pour payer la maison?
Pas du tout. Non, mais vous connaissez des gens, voient la retraite, qui ont 1 700 € par mois. On va aller la voir, si vous voulez, tout à l'heure. J'ai demandé qu'on lui donne peut-être un petit supplément alimentaire parce qu'elle ne se nourrit pas. On lui apporte le plateau, mais je crois qu'il repart comme il est arrivé. Hein. Elle veut pas, elle veut rien manger. Rien, rien, rien. Eh oui.
L'ancienne, celle que je vois souvent assise aux alentours de la rue des Tables Claudiennes, l'ancienne, et dont le sourire m'hypnotise quand je la croise au détour de mes allées-venues quotidiennes. À la douceur des traits de son visage, je peux dire que si je bâtissais un village, elle en serait la sage. À la douceur des traits de son visage, j'affirme que ce n'est pas l'âge qui de jeunesse égage. L'ancienne qui spontanément sourit aux gens, un sourire bienveillant, un sourire de magicienne. L'ancienne est-elle fille d'immigrants venue d'Italie, ou est-elle née croix-roussienne? J'aimerais parler avec elle, la toute vieille, la toute belle, embrasser sa mémoire, coucher ma tête sur son histoire, m'arrêter un jour en passant, entendre sa voix, son accent, comprendre pourquoi elle paraît toute pétrie de joie. Oh. Car les anciens, on les camoufle bien, on construit des maisons pour eux, que leur sourire généreux n'irradie pas l'espace, ne laisse pas la place à l'envie de se poser, de réfléchir, de se causer. Ils connaissent pourtant des langues et des villes oubliées qui pour peu comprennent le temps de creuser, de fouiller, réfléchit la lumière, donne un peu de matière et nourrit de présence notre quête de sens. Assonove son aveu, assonove la paille, assonove le grain, à chaque tof nous paye, à lève vos mains, ok, joy à venir, à quatre mon grand pôle, ripoyove son aveu, ripoyove la paille, ripoyove le grain, à chaque tof nous paye, à lève vos mains, ok, joy à venir. Renvoie une image loin des canons de beauté, ceux de la tranche d'âge vénérés par la cité. On ne leur parle pas, on les pose à côté et on les éloigne du repas. On cherche à éviter pourtant l'ancienne. Je la vois souvent qui parle avec des gens. C'est sans doute qu'ils se souviennent que les anciennes charrient des tonnes de bouts de vie et que les romances, ce sont elles qui les détiennent. L'ancienne.
C'est la maison de retraite. Là, vous rentrez. Voilà, l'entrée. Ça a été refait là dernièrement. Voilà. Allez-y. Voilà l'entrée. Alors là, quand vous rentrez, c'est toujours propre. Hein. Bonjour. Je vous présente le capitaine.
Bonjour, c'est le monsieur avec la casquette ?
Oui, c'est le capitaine. Pardon, monsieur. Bonjour, monsieur Leveau. Ça va ?
Oh, ça me fait mal à ma jambe aujourd'hui. Là, j'ai mal. Hein.
Vous avez mal, bah oui.
Je vais aller à l'infirmerie.
On peut monter avec vous, madame ?
Ah, oh, mais oui.
Nous, on va au premier.
là, on arrive au premier.
Alors, maman, elle était avant, elle était dans cette chambre-là.
Là, la chambre.
Là, le Canada, on l'a fatiguée. Elle était dans cette chambre-là.
Une drôle d'odeur, non? Qu'est-ce que c'est, cette odeur? Pipi?
Ah oui, oui. Mais je ne suis pas la seule. Il y a la pédicure l'autre jour qui est venue par maman. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ça, ça m'a fait.
Là, le bas des portes, c'est quand même assez usé. Hein?
Oui, c'est une vieille maison, ouais. Quand même, la maison de Gaulle.
Alors là, les dames, elles peuvent voir la télé. Ça vous dit rien? Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Dames. Alors, elles s'assoient, elles ont la télé. Et voyez, maman, elle ne vient jamais.
Vous voyez, c'est pas net, là.
Et puis c'est...
Voilà.
Les plaintes, là, elles sont... Il n'y a plus de plaintes, c'est tout arraché. Les tables, elles sont cassées, c'est...
Oui.
Il y a un vieux tourne-disque, là.
Ah, oui, j'avais même pas remarqué.
Alors, elle s'assoit, là.
Et puis, elle regarde la télé, une partie de l'après-midi.
Bonjour, madame. Vous allez bien?
Ça va?
Bonjour.
Bonjour.
Personnes âgées sont hébergées dans ces institutions. C'est un chiffre qui va doubler dans les 15 années à venir. Et avec ce chiffre, le chiffre de la maltraitance. Je le disais en commençant, il y a des organismes qui luttent contre la maltraitance, il y a des promesses de lutter contre la maltraitance. On en parlera dans la suite des reportages, des types de maltraitance différents, etc. Mais la première maltraitance, évidemment, est de considérer la personne âgée comme une marchandise, au mieux, un déchet, au pire. Le point de vue des soignants.
Vous êtes aide-soignante?
Oui, depuis un certain nombre d'années.
C'est une très ancienne maison de retraite, non?
Oui, parce que ça a commencé dans les années 1800, c'était un hospice, après ça s'est agrandi au fur et à mesure des années et des besoins. Après on a eu un bâtiment qui s'est construit vers les années 60, après on en a eu un autre qui s'est reconstruit dans les années 90. Donc tout ça, ça fait que ça fait quand même des grandes structures. Mais c'est vrai que là, c'est les locaux qui sont quand même vétustes dans les meubles, dans les murs, dans les normalisations d'électricité, sécurité. Les chambres sont trop petites, il y a trop de matériel. On a besoin des fois de lèvres-personnes, on a des meubles qui nous gênent.
Il y a combien de résidents dans cette maison de retraite?
237. C'est énorme. Donc c'est des grands couloirs. Sur un même service, on peut avoir le maximum, c'est 73 résidents sur un service. Donc on est quand même 8 le matin à s'en occuper. Après, il y a le ménage à faire. Et c'est là que si le bas blesse, parce que si le ménage n'est pas fait, les familles portent plainte, mais se plaignent du manque d'entretien, quoi.
Et c'est à vous, les aides-soignantes, de faire le ménage?
Oui, c'est tout le monde confondu. Oui, on veut entretenir les chambres.
Et les résidents, ils se plaisent dans cette maison de retraite ou ils se plaignent?
Se plaindre, je pense que ce qu'ils se plaignent, c'est de ne pas nous voir assez. Parce que ce qui manque beaucoup, c'est le côté relationnel. Malheureusement, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Vu la charge de travail, nous on aimerait aussi prendre le temps, parce que il faut pas oublier qu'une personne âgée, ce qu'elle a besoin, c'est de l'affection, qu'on l'écoute, c'est tout le côté relationnel. Malheureusement, on ne peut pas.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a les toilettes, mais on n'a pas que les toilettes à faire. Il y a les rideaux à entretenir, il y a des commandes de produits à faire. On nous demande de mettre ça à jour, de faire ci, de faire ça. Mais on passe quoi, je vous dis, une demi-heure, trois quarts d'heure, le plus, et c'est tout. C'est tout ce qui nous voit dans la journée. Voilà. Là, c'est vrai que les personnes âgées, c'est un petit peu sujet tabou. Il y a très peu de structures. C'est vrai que tout le monde national dit que les personnes vieillissent de plus en plus, mais il n'y a pas de structures qui suivent. Il n'y a pas le personnel qui suit. Il n'y a pas les compétences qui suivent. Il y a beaucoup de choses qui font que, voilà, on parle de résidents, on parle de personnes âgées, de plus en plus dépendantes, mais c'est tout, on reste là. C'est vrai que le soin à domicile a beaucoup évolué, mais maintenant, il faut penser aux personnes de plus en plus dépendantes, même au niveau des démences type Alzheimer, il n'y a pas de structure. Donc le personnel, on n'en tient pas compte, on est des robots, on doit faire ci, on doit faire ça, et le côté humain n'est pas pris en compte non plus.
Quel mot anglo-américain désigne l'ours brun de grande taille des montagnes rocheuses noires? Grizzly terrier. Presque. Le grizzly, d'accord. Quel mot tiré du latin kappa désigne la couche de béton ou de mortier appliquée sur le sol pour le rendre plan et uni? Une chape, voilà.
J'ai un Jules là en face.
Vous avez un Jules là en face?
Oui, juste en face, là, 103 ans. Puis j'en ai un autre, mais là que 7 ans. Alors faut que je l'attende pour me marier. Oh, il dit surtout, hein, mamie, tu te maries pas tant, tu m'attends. Oui, oui, n'aime pas peur. Je t'attends. Ah, j'aimais ça chanter. J'ai deux amours, non, c'était pas Tilly.
Non, c'était Joséphine Baker. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Paris, toujours. Mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui manque sur celle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve d'amour. J'ai deux amours, mon pays à Paris. Oh, j'aimais ça chanter.
Ah oui, elle a 92 ans. Hein.
Oh, j'aimais ça chanter.
Et vous vous plaisez ici?
Bah, je suis bien obligée, je suis chez nous. La maison est à moi. Oh, et toutes les maisons à côté sur moi. Tout le quartier est à moi.
Bonjour madame. Je vais vous servir une petite boisson. C'est l'heure du goûter. Je vais vous servir une petite
boisson. Pourquoi pas du champagne?
Ah, j'ai pas de champagne.
Moi je bois que ça.
Mais j'ai pas ça dans mon magasin. Voulez-vous un petit gâteau? Un petit gâteau pour accompagner la petite boisson.
C'est un gâteau ça?
Oui, c'est du cake, maman.
Ah ben je veux bien, oui.
Donne, je vais t'ouvrir.
Ah, des fois sec.
Un montant plié. Veux-tu que je te l'ouvre, maman? T'auras du mal à l'ouvrir.
Heureux d'avoir un petit peu de vie. Maman, ne crie pas. Ils vont croire que t'es toc-toc. Crie pas. Mais
c'est vrai. Donne, je vais te l'ouvrir. Essayez. Donne, je vais te l'ouvrir. T'es pas toc-toc, on est même loin. Mais des moments, là, avec toutes choses, vous voyez, qu'on a les propriétaires.
J'ai faim.
Il y a des bonbons dans la chambre à côté. Vous voyez, il dit du frère.
C'est bon, j'y
Je sais plus où j'en suis.
Bah, si, bah, donne, je vais te l'ouvrir, maman.
Ah, j'y arrive pas.
Bah, oui, mais j'ai dit que c'est un cake.
C'est dur à l'ouvrir.
Bah, excusez-moi. Bah, oui, il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de prise. Hop, ça y est. Bon, il y a tout qu'on peut garder.
Scène ordinaire dans une maison de retraite, quelque part en France. Maintenant, le point de vue de Michel Mazera, qui est médecin gériatre à l'hôpital de la Souterraine dans la Creuse. et qui réfléchit et donne son point de vue sur ces maisons de retraite.
Oui, je m'appelle Michel Mazérin, je suis médecin gériatre à l'hôpital de La Souterraine, en Creuse. Ce qui permettrait de vivre dans de meilleures conditions et plus longtemps, c'est de pouvoir être inséré dans un milieu qui est proche du milieu qu'ils ont vécu pendant la plus grande partie de leur vie. C'est ça, c'est-à-dire que les déracinements, les changements de mode de vie, comme mode de vie radical, comme la maison de retraite, c'est quelque chose qui ne peut pas aider à bien vivre. L'harmonie par rapport à son milieu est sûrement quelque chose de très important pour pouvoir vivre longtemps dans de bonnes conditions, même avec une maladie et même avec une maladie d'Alzheimer. Il est vrai que le fait d'être dans une maison de retraite avec un service qui est prévu, auquel ne participent en général pas les résidents, est un facteur de dégradation, hein, dans la mesure où, pour que l'homme puisse vivre en bonne santé et en équilibre avec son milieu, il faut qu'il ressente l'utilité de sa vie. Or, à partir du moment où on n'a plus de tâches, même pas des tâches personnelles, ou tellement peu que ça devient très menu, eh bien à ce moment-là, on peut penser quand même que le sentiment d'inutilité devient très important. Il est vrai que jadis, chacun, avec ses possibilités, participait à la vie commune. Les gens, ils n'avaient pas qu'à mettre les pieds sous la table, ils participaient chacun à des tâches. Alors, à des tâches en rapport avec leur capacité, mais quand même, ils avaient l'impression de contribuer à leur entretien personnel, mais aussi à l'entretien de la collectivité. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Moi qui suis pas très jeune, j'ai connu il y a une trentaine d'années des maisons de retraite qui avaient encore la possibilité d'avoir des domaines agricoles, par exemple. Et donc les gens, eh bien, ils participaient à un petit peu, soit à l'élevage, soit à la cuisine, à la préparation des par exemple aux pluches. Tout ça, ça a disparu, et ça a disparu d'une façon très stricte. Maintenant, il n'est plus possible, et même il est interdit, de participer aux tâches ménagères quand on est dans une maison de retraite. Et donc, ça, moi, je crois que c'est vraiment rédhibitoire. Hein. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas un sentiment d'être utiles à eux-mêmes, mais aussi à la collectivité dans laquelle ils sont.
Nous avons décidé de ne plus lire les livres, mais les rides de nos ancêtres. Merci à tous, c'était un reportage de Charlotte Perry, merci à Anne-Marie, à sa mère, merci à Mustapha Ramdan, Bruno Fergu du syndicat Sud Santé. On tue les vieux, c'est le livre de Christophe Fernandez, Thierry Ponce, Dominique Prédali et Jacques Soubéran, dont nous reparlerons. 12 gériatres en colère, aussi à lire, paru récemment chez Fayard. Et puis autre chose, un rendez-vous très important demain, mercredi 18. Un rassemblement est organisé pour la liberté de la presse en Tunisie et au Maroc. On a parlé dans cette émission de Khalid Guédard, le dessinateur marocain. Et notre ami Taoufik Ben Brik, vous le savez peut-être, a été arrêté et emprisonné en Tunisie, ce qui pose des tas de problèmes pour tous ceux qui luttent contre le pouvoir en Tunisie et pour la liberté, donc, et la liberté de la presse notamment. Donc, ce sera place de l'Opéra à Paris à 18h ce mercredi 18. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. On aimerait bien avoir vos témoignages et vos réactions sur ce sujet. Vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org. Olivier Daligo et Céline Bonhomme étaient à la technique aujourd'hui. Koyen Guyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. À assistée d'Agnès Lebot. Et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de la baisse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Et si on parlait recyclage des lampes basse consommation ?
Moi, je rapporte toujours mes lampes usagées au magasin. Je sais que les commerçants sont tenus de les reprendre quand j'en achète des neuves, donc franchement, ça me complique pas la vie.
Rapportez vos lampes usagées en magasin dans les meubles de collecte prévus à cet effet ou déposez-les tout simplement à l'accueil. Plus d'infos cette semaine avec MacLesguy ou sur malampe.org.
En direct de l'Hippodrome avec notre grand favori, alors heureux de fêter les 20 ans du Quintet Plus.
Super anniversaire et encore plus pour les parieurs, il y a 500 000 euros en plus par jour à la tirelire du Quintet Plus. Ça motive encore plus.
Du 14 au 22 novembre, le PMU vous en donne encore plus. La tirelire du Quintet Plus augmente chaque jour de 500 000 euros. Alors rendez-vous vite dans votre point de vente PMU. Montant à partager entre les gagnants du rapport ordre ayant le numéro plus gagnant.
PMU.
On parie que vous allez gagner.
Amstram, Gram. Perdu, monsieur Duchamp. Désolé, mais ce n'est pas encore cette année que la recherche pourra s'occuper de votre maladie. Suivant. Amstram, Gram, pique et collégramme.
Toutes les maladies méritent une vraie place. Fondation pour la recherche médicale. Donnez pour que la recherche bénéficie à tous les malades. Appelez le 3620 et dites Fondation.
15 centimes la minute à partir d'un poste fixe.
Consulter un avocat n'a rien de compliqué. Pour vous le prouver, les avocats organisent cette année encore la semaine des avocats et du droit. Alors, pour vos affaires de famille, dans votre travail, pour un contrat, une négociation, une question de banque ou d'assurance, téléphonez au 0810 313 313. Un avocat va vous répondre.
De 9h à 18h, prix d'un appel local à partir d'un poste fixe. Tous les détails sur avocat.fr. Si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un avocat.
16h30 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Les infos, Angélique Bouin. Salut.
On commence avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Tony Musulin s'est rendu à la police. Tony Musulin, c'est ce convoyeur de fonds qui avait dérobé plus de 11 millions d'euros à Lyon il y a 10 jours. Il s'est présenté, Maurice Fusier, dans un commissariat de Monaco.
Alors, si on ne connaît pas pour l'instant les détails de l'interpellation de Tony Musulin, il semblerait effectivement que cette arrestation se soit déroulée dans le calme et que ce soit le convoyeur de fonds recherché par toutes les polices du monde qui ait ainsi décidé de se rendre à la police monégasque. Pourquoi ? La question reste ouverte. Ce qui est sûr, c'est que Monaco est sans doute le dernier paradis où un homme recherché activement comme l'était Tony Musulin peut se cacher. En effet, la principauté est un endroit truffé de caméras, rue après rue, et personne ne s'en plaint d'ailleurs sur place, sauf peut-être les Arsène Lupin. Et pour des raisons évidentes de sécurité, c'est caméras entrent de partout, parfois même dans les hôtels. Et il est vraisemblable que Tony Musulin s'est finalement enfermé lui-même dans la souricière électronique de Monaco et que se voyant ainsi encerclé, à la merci des policiers qui auraient pu le reconnaître, il ait préféré se rendre. Pourquoi Monaco ? Peut-être pour cacher les 2 millions d'euros avec lesquels il est parti, peut-être aussi pour passer en Italie par le poste frontière de Vintimille pour ensuite gagner les pays de l'Est d'où il est originaire. Je vous rappelle que ce convoyeur de fonds est accusé d'avoir dérobé 11 millions d'euros le 5 novembre dernier à Lyon, dont 9 millions avaient été retrouvés dans un box non loin du lieu où avait été abandonné le fourgon vide. Lyon, Maurice Fusier, France Inter.
Un ressortissant marocain s'est pendu la nuit dernière dans sa cellule de la prison de Borgo, en Haute-Corse. Il avait été condamné à 2 mois de détention pour avoir refusé d'embarquer dans un avion après un arrêté d'expulsion. Il était sous le coup d'un nouvel arrêté fixé à mercredi prochain, selon le procureur de la République de Bastia. C'est cette perspective qui expliquerait ce geste désespéré. L'homme était âgé de 35 ans. Dans le domaine de la politique suivie par le gouvernement sur la question des étrangers en situation irrégulière, la justice a inflige un revers au ministère de l'Immigration Éric Besson. Le Conseil d'État a en effet annulé l'accord qu'il avait passé avec le collectif Respect, cette association invitée à intervenir en lieu et place notamment de la CIMAD dans certains centres de rétention. Une association qui ne présente pas les garanties d'indépendance et de compétences nécessaires, ont estimé les magistrats. Le vaccin sans adjuvant contre la grippe A est prêt. Il a été développé par le laboratoire Sanofi Pasteur et sera disponible dès vendredi. Il sera proposé aux femmes enceintes qui ont passé le premier trimestre de leur grossesse, aux enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ainsi qu'aux personnes immunodéprimées. Le gouvernement ne décolère pas après la distribution annulée de billets de banque et les émeutes de ce week-end à Paris. Son porte-parole, Luc Châtel, a qualifié de totalement irresponsable l'opération menée par une société spécialisée dans les sites de jeux en ligne pour se faire de la publicité. Le gouvernement étudie les recours possibles contre cette entreprise pour lui faire payer notamment les dégradations commises dans le quartier du Champ de Mars, a-t-il dit. À l'approche de l'hiver, les associations qui aident les plus pauvres tirent un signal d'alarme. Le Secours catholique se dit confronté à une hausse de 24% de personnes à accueillir depuis le mois de juin. Même sentiment au Secours populaire où l'on recense une hausse de 15 à 20% des demandeurs d'aide. Les profils les plus touchés par la crise sont les personnes âgées, les jeunes et les familles monoparentales.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Nous enregistrons dans le Nord, aujourd'hui à Halluin, à la salle du Manège, rendez-vous à 18h30. Et demain, nous serons à Sizouin, à la salle des fêtes, également à 18h30. À très bientôt.
France Inter et la Colline Théâtre National présentent jusqu'au 16 janvier Une maison de poupée et Rosmersholm d'Henrik Ibsen. Stefan Braunschweig poursuit sa confrontation avec l'œuvre d'Ibsen en montant en miroir deux œuvres où les personnages jetés dans le vide doivent se frayer à tout prix une sortie pour renaître à eux-mêmes. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai eu un grand plaisir, j'étais à Mâcon pour les symphonies d'automne, à l'occasion du 16e concours international des airs d'opéra et de mélodies françaises, et il y avait une dame, là, dans le jury, qui a fait l'honneur de venir, extraordinaire, en principe, on dit une diva, seulement elle se comportait tout à fait normalement, avec beaucoup de gentillesse, et après le résultat, que je vais vous donner d'ailleurs, on a dîné ensemble, et ça a été un festival de drôlerie, de gentillesse, parce que Madame Teresa Berganza, qui a une carrière absolument superbe et prestigieuse, c'est aussi avoir une curiosité de petite fille, et puis évidemment, une tenue de grande dame, elle a des expériences inouïes à nous raconter, elle va écrire un livre, nous a-t-elle confié, entre deux plats pris sur le buffet à côté, et puis il y avait autour toute une foule de musiciens, des jeunes musiciens qui avaient accompagné le concours, l'orchestre de Mâcon, les lauréates, parce qu'il y avait seulement des filles parmi les finalistes. Donc, il y avait des gagnantes toutes heureuses, des perdantes qui avaient les yeux un peu rougis. Enfin, c'était super, mais j'ai apprécié tellement Madame Berganza que je lui ai promis de lui faire un petit coucou, parce qu'elle nous écoute souvent, et de passer un air du Barbier de Séville. Donc, c'est Rosine qui a entendu une voix, et cette voix l'a fait évidemment chauffer légèrement dans son cœur, en tout cas, et elle chante plus pour jamais je suis à toi, cher objet de ma flamme. Je vais vivre sous ta loi. Ah oui, l'un d'or a su me plaire, et il a mon cœur, il a ma foi.
La vincerò, sin indore. il tuo corribus è no.